Divers aspects de la pensée contemporaine, aujourd'hui la libre pensée. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Au micro, Christophe Bitot, vice-président de la Libre Pensée. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Marc Chiappa, président de l'IRELP, Institut de Recherche de la Libre Pensée. Jean-Marc, bonjour. Et Mina Yefsa, membre du conseil d'administration de l'IRELP. Mina, bonjour.
Bonjour.
Alors ma première question sera, qu'est-ce que l'Institut de Recherche de la Libre Pensée? Pourquoi a-t-il été créé et quelle est sa fonction?
Bigram, trois brèves questions, mais qui pourraient nécessiter de bien longues réponses, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. L'Institut de Recherche et d'Études de la Libre Pensée, l'IRELP, a été fondé il y a 20 ans et quelques jours. D'ailleurs, nous clôturons les activités liées au 20e anniversaire de l'IRELP, sur la base d'un constat cruel, mais réel, qui était que la plus vieille association de ce pays, la Libre Pensée, dont les premiers cercles organisés remonte au printemps 1848, n'avait pas d'institut spécifique, d'institut approprié. Donc à partir de là, un certain nombre de personnes, dont j'étais malheureusement déjà, ont créé cet institut qui donc essaye, tant bien que mal, de fonctionner, de faire vivre et qui a à son archet un certain nombre de cordes que je pourrais bien évidemment détailler si c'est souhaité.
Et que peut-on trouver à l'IRELP dans vos archives ?
Oh, c'est un peu comme la Samaritaine, on peut à peu près trouver de tout. Disons que nous avons une bibliothèque considérable, 8000 ouvrages qui sont pour l'essentiel, mais pas uniquement, relatifs à tous nos champs de compétences, on va dire l'humanisme, l'anticléricalisme, la laïcité, l'histoire, la franc-maçonnerie, la théologie. Nous avons des collections importantes de revues chrétiennes de différents pays d'ailleurs. Donc nous avons cette bibliothèque avec des ouvrages d'ailleurs, il faut le dire avec une certaine fierté, que la Bibliothèque nationale de France ne possède pas. Ça, incontestablement, c'est un de nos trésors, dirais-je. La deuxième catégorie de nos possessions qui sont regroupées dans la cave de l'Institut de Recherche, ce sont les archives. Nous avons, comme je l'ai dit, nous avons été fondés il y a 20 ans et on avait ce travail de reconquête, de réappropriation de toute l'histoire de la libre pensée, surtout de ces documents qui étaient particulièrement dispersés. Et j'en dirai peut-être un mot dans une seconde. Nous avons donc des archives, je peux le dire, probablement les archives les plus importantes au monde relatives à la libre pensée. Par exemple, c'est quelque chose que nous montrons toujours à nos visiteurs. En 1940, quand les nazis ont occupé la France, ils ont saisi les archives de la libre pensée de la Charente et de la Charente-Maritime qu'ils ont amenées au siège de la Gestapo à Berlin en 1945, quand l'armée russe a pris Berlin et donc a récupéré les archives de la Gestapo qui sont allées à Moscou. Et au moment de la chute du mur de Berlin et surtout de l'explosion de l'URSS, les archives saisies ont été restituées un peu partout et nous avons récupéré les archives de la libre pensée de Charente et de Charente-Maritime d'avant 1940. Il est assez triste de dire que ce sont les archives les mieux conservées de tout ce que nous avons, parce que notre travail d'acquisition, de réacquisition d'archives libre-penseuses en France et dans le monde sont particulièrement importantes.
Donc les caves de l'IRELP sont encore plus célèbres que celles du Vatican, semble-t-il.
Pas encore, mais nous avons bon espoir.
Alors vous avez récemment célébré les 20 ans de l'IRELP. Pouvez-vous revenir sur cet événement ?
Ces événements, plus exactement. Parce que c'était multiforme. On n'a pas tous les jours 20 ans. Multiforme, et cela a pris la forme, si j'ose dire, par exemple, de l'organisation d'un colloque international sur lequel il sera dit quelques mots dans une seconde, mais cela a pris la forme également d'un ouvrage collectif Histoire de la libre pensée qui va sortir dans les jours qui viennent, un ouvrage collectif qui reprend l'histoire de la libre-pensée depuis ses origines jusqu'à ses derniers jours quasiment, y compris à l'actualité la plus récente de la libre-pensée, mais un ouvrage pour résumer cela, parce que je crois qu'on peut dire qu'aucun ouvrage substantiel et complet sur l'histoire de la libre-pensée n'a été fait. Et nous avons également publié ce que nous appelons un livre d'or, puisqu'il s'agissait de collectionner ce que nous avions fait pendant 20 ans, bien évidemment pas l'ensemble, mais un texte particulièrement remarquable à nos yeux pour publier ça. Donc ce colloque, ces activités ont donné lieu à de nombreuses rencontres à tous égards.
Alors Mina, ce colloque, ces rencontres.
On va peut-être revenir sur le titre de ce colloque qui était « De la diversité des appartenances à l'unité des convictions dans la libre-pensée ». Le but était de fêter dignement ces 20 ans d'anniversaire de cet institut de recherche et d'études de la libre-pensée, mais que cet anniversaire ne soit pas juste formel, mais que ce soit de prendre un moment entre libre-penseurs de France, mais aussi à l'international, se rassembler et discuter de nos diversités, mais aussi de notre unité dans les convictions. Et ça a permis aussi d'ouvrir un peu nos travaux futurs, et de voir que 20 ans se sont écoulés depuis sa création, mais que il reste encore pas mal de chemin à parcourir, et notamment pas juste en récupérant les archives au niveau national, donc en France, mais aussi en se tournant vers les différents travaux et différentes études qui peuvent être faites à l'international sur la libre pensée.
Et outre cet anniversaire, quelles sont les activités récentes de l'IRELP?
Ah, nous recevons un certain nombre de chercheurs et d'étudiants, ou de curieux, ou de militants. Mais je prendrai un exemple récent, puisque l'actualité, notamment sur le Service National Universel, a amené un certain nombre de doctorants à réfléchir à ces questions-là. Et on a découvert dans nos archives, enfin, on a découvert les textes, pas l'information, que la libre-pensée était la première organisation en France, en 1925, à s'être prononcée pour l'objection de conscience. Ça montre bien que l'histoire de la libre-pensée, elle est consubstantielle, dirais-je, à l'histoire de ce pays, et qu'il y a des tas d'éléments qui sont produits par l'histoire de la libre-pensée ou par son activité, qui sont maintenant, je dirais, dans le patrimoine commun des acquis démocratiques de ce pays. C'est quelque chose d'extrêmement important. En 1925, la guerre, contrairement à ce qu'on peut croire, ne s'est pas terminée le 11 novembre 1918. Il y a eu un certain nombre d'opérations militaires. Ceux qui se souviennent de Capitaine Conan, de Tavernier, ce grand film, comprennent évidemment de quoi il s'agit, mais un tas de choses qui fait que la question de la guerre et du refus de la guerre, donc de l'objection de conscience, dans la France de 1925, c'était pas du tout quelque chose de simple, quelque chose d'évident. Et le fait que la libre-pensée, dans son congrès, après en avoir discuté longuement, prenne position en faveur de l'objection de conscience, n'était pas du tout un événement politique mineur. Par exemple, je prends cet exemple-là parce que c'est le plus récent, mais on pourrait prendre d'autres éléments sur des recherches qui sont menées de différents aspects, sur différents points. Là, par exemple, nous sommes en train, avec un certain nombre de nos amis étrangers, nous avons lancé un appel international pour créer une structure souple, dirais-je, d'échange au niveau international de toutes ces connaissances historiques sur la libre-pensée, parce que la libre-pensée, même si l'IRELP est, si j'ose dire, située en France, dans le 13e arrondissement de Paris, très exactement, la libre-pensée est un phénomène mondial, il ne faut jamais l'oublier.
Un premier bulletin suite à cet appel a été sorti.
Il y a effectivement, cet appel aboutit à une première lettre d'information, mais comme c'est une lettre particulièrement modeste, on ne fera que la mentionner.
Votre modestie vous honore. Et quelles sont les perspectives de l'IRELP?
Ah, d'abord nous reposer. Non, je blague totalement parce que l'IRELP ne connaît pas le repos. Nous sommes en relation étroite avec la Fédération Nationale de la Libre-Pensée. L'IRELP va donner, je dirais, un coup de main sérieux à l'organisation d'un colloque sur littérature et révolution le mi-février, sur 2 jours, avec des partenaires internationaux particulièrement importants, d'Uruguay, de Pologne, sur des thèmes divers sur les relations entre littérature et libre-pensée. Ça fait partie de notre perspective immédiate. Sous des formes que nous n'avons pas encore précisées, dirais-je, l'IRELP va participer au congrès mondial de la libre pensée qui se tiendra à Madrid en septembre 2020 et l'IREELP utilisera, si j'ose dire, ce congrès pour en faire un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Ça sera incontestablement un événement fort de l'histoire de l'IREELP, de l'activité de l'IREELP pour les mois qui viennent.
J'ai eu vent également de travaux que suivait l'IREELP, notamment sur le STO et les Algériens en 1942. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ?
Alors, c'est pas exactement le STO, parce qu'on peut pas à proprement parler de STO pour la question des Algériens en 42. Annie Lacroix-Ruiz, une historienne, a sorti récemment un livre, La non-épuration en France, de 1943 aux années 1950, où elle cite à un moment un accord entre Vichy et les nazis pour que 100 000 Algériens, donc non-européens, aillent travailler de force en Allemagne. Suite à cette publication, on s'est posé la question de creuser un peu plus cette question des 100 000 Algériens qui sont forcés d'aller travailler en Allemagne. Et autour de cette problématique, Cher à Canon en 14-18 et Cher à Usine en 39-43. Et le but, donc, ça serait d'aller regarder dans des archives ou de prendre contact avec d'autres historiens qui ont travaillé sur la Seconde Guerre mondiale ou l'action des travailleurs algériens en France et au Maghreb, et d'essayer de approfondir un peu cette question, surtout dans un contexte où actuellement en Algérie il y a plus qu'un mouvement de révolte, il y a une révolution où les travailleurs algériens sont plus qu'impliqués.
Eh bien, est-ce que vous auriez d'autres informations à nous apporter sur l'IREELP, sur vos activités à venir? J'aimerais bien vous appuyer un petit peu sur l'aspect international qui me paraît très important. Vous l'avez évoqué, mais je pense que la libre pensée est un mouvement international. Et cet aspect-là m'intéresse particulièrement. Et puis peut-être également sur le travail qui est mené avec la Fédération nationale concernant le colloque de Madrid, enfin les rencontres de Madrid autour de la laïcité et de l'instruction. Comment allez-vous prendre votre place dans cette perspective internationale et sur cette rencontre de Madrid ?
Très schématiquement. La Libre Pensée est une association internationaliste et internationale. Les choses ne sont pas obligatoirement identiques. Et ça, dès le départ, y compris pour des raisons, je dirais, d'exil. Pensons plus particulièrement à l'exil de Victor Hugo, célèbre libre penseur, mais il n'était pas le seul à avoir été chassé de France par le bonapartisme de Napoléon le Petit. Bon, cette association internationale est obligatoirement de cette nature dans la mesure où l'aspiration à la laïcité, l'aspiration à la séparation des églises et de l'État, elle est mondiale, elle est multiforme. Je vais prendre un exemple que malheureusement l'actualité a révélé encore plus. La séparation des églises et de l'État a eu lieu tout récemment, il y a quelques années en Bolivie. Ça explique peut-être un certain nombre de choses actuelles. Et ça a eu lieu sous une forme très précise. C'est le seul pays au monde où c'est par référendum que la séparation des églises et de l'État a été obtenue. En France, c'est la célèbre loi du 9 décembre 1905. Aux États-Unis, c'est le premier amendement, sous d'autres formes et sous d'autres cieux et sous d'autres pays, différentes choses. Et donc, c'est ces spécificités, comment le même fond, l'aspiration à la laïcité, s'est incarné dans différents pays. Ça, ça fait partie, je dirais, de notre réflexion au niveau international. J'insiste bien, c'est avec, pour le moment, des chercheurs, des universitaires, des militants d'une douzaine de pays que nous travaillons sur ces questions-là. Cela va bien évidemment s'incarner dans le congrès de Madrid de septembre 2020. Et sur nos activités, on a un certain nombre d'activités qui sont loin d'être... achevés, qui sont loin d'être déterminés. Par exemple, nous avons un projet qui n'est pas facile, mais qui est justement, parce qu'il n'est pas facile, est encore plus passionnant. L'histoire du mouvement ouvrier est engluée d'un certain nombre de mythes, de mystifications, d'escroqueries intellectuelles. J'en prendrai une parmi beaucoup d'autres. On nous présente très régulièrement Jules Guesde comme étant un marxiste. Ceux qui connaissent un peu l'histoire du mouvement ouvrier voient que c'est une escroquerie abominable. Donc nous avons décidé, c'est un de nos chantiers, d'ouvrir la perspective d'un colloque international sur les mythes du mouvement ouvrier. Par exemple, l'opposition entre Marx et Bakounine pendant la Première Internationale est quelque chose qui, incontestablement, a été revisité par nous et qui doit l'être encore plus. Ça fait partie des choses que nous devons faire, des choses que nous devons travailler. L'activité de l'IRELP est une activité permanente, une activité incessante. D'ailleurs, c'est pour cela que vous pouvez nous contacter de manière extrêmement simple par Internet, sur l'adresse irelp@laposte.net. Il vous sera fait le meilleur accueil, j'en suis persuadé.
J'en suis convaincu également. L'IRELP, à travers les différentes actions que vous nous avez présentées, peut paraître comme ça, à premier abord, comme peut-être un mouvement qui s'intéresse à l'histoire et donc qui s'adresse peut-être plutôt aux chercheurs. Mais est-ce que n'importe quel citoyen peut adhérer à l'IRELP et s'y investir ?
Bigre oui, nos portes sont très largement ouvertes. Il suffit de vouloir, il suffit d'avoir envie de chercher, d'avoir envie de lire, d'avoir envie de farfouiller dans nos archives qui sont, j'insiste, considérables.
Eh bien écoutez, c'est une invitation que j'espère de nombreux auditeurs sauront prendre à la lettre. Jean-Marc Chiappa, je vous remercie pour cette émission.
C'est moi.
Et Mina également, je vous remercie. Donc merci, c'était La Libre Pensée qui avait invité l'IRELP, Institut de Recherche et d'Études de la Libre Pensée. Merci beaucoup.